CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Bonjour, bonjour à tous et bonne année, hein, une bonne année 2012. C'est le mag de CFM, c'est Johan à votre compagnie pour une petite demi-heure. Je vous souhaite que 2012 ne soit pas l'année du blues, hein. Allez, on va en finir avec la tristitude. Je vais vous faire découvrir ça au-delà, c'est drôle. Je recevrai tout à l'heure Stéphanie et Emmanuel qui nous parlent d'un projet intéressant de leur association Vallée Éco qui veut recueillir des témoignages sur la vie dans la vallée de la Baille aux temps anciens pour proposer des balades citoyennes au printemps qui exposeront à travers un spectacle de la compagnie Le Dandy Manchot comment était le pays quand on s'y balade aujourd'hui, ben comment les moulins ont été bâtis, les puits creusés, les lavoirs bâtis, des choses comme ça, et surtout comment vivaient les gens là.
La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal, la tristitude. C'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à Nogent le retrouve. Quand ton coiffeur t'apprend. T'as des reflets roux et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est ouh, c'est eux, c'est vous, c'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude. C'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mercose de la princesse de Galles. Quand samedi soir c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier, la tristitude. C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal, mal, mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux d'un awa. La tristitude, c'est ouh, c'est eux, c'est vous. La vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère, si à moi, t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal, la tristitude. C'est devenir styliste, mais pour Eddie Mitchell. C'est conjuguer bouillir au subjonctif pluriel. C'est faire les courses le samedi d'avant Noël. Et ça fait mal, mal, mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le crâne à moi. Ça n'a pas du tout, non, non, non. La tristitude, la tristitude, la tristitude te donne la tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude, oh, la tristitude, la tristitude. C'est un peu de tristesse et de solitude. C'est comme de la tristitude. La triste, la triste, la triste.
CFM, le mag, tous les jours, 12h30.
Je reçois maintenant l'association Valais Éco, représentée par Stéphanie et Emmanuel. Alors l'association Valais Éco, il y a marqué Ginals, 82, on ne sait jamais, parce que des Ginals, il peut y en avoir beaucoup. C'est la Vallée de la Baille, et moi j'ai entendu que vous y faisiez des trucs, mais que vous n'étiez pas encore à venir en causer dans le poste. Bon, là, si vous faites un truc ou vous faites un appel à témoignage. Alors bon, il n'y a rien de mieux que la radio, la presse, pour lancer des appels à témoignage et que quelqu'un y réponde. Alors, qui c'est qui se lance pour me parler de tout, là, de l'association, qu'est-ce qu'elle compte faire, pourquoi c'est faire, depuis quand c'est fait, qui y a dedans, et à quelle heure on mange, enfin...
Ben moi, je peux commencer. Peut-être pour parler de l'association et de ses fondements, je vais laisser Emmanuel en parler. Par contre, je me suis adressée à vous comme à d'autres médias locaux pour lancer un appel auprès des habitants du territoire de la Vallée de la Baille. L'idée est de recueillir, on va dire, un certain nombre de matériaux.
Oui, voilà. Alors, quand on dit on va lancer un appel, ne partez pas. C'est pas d'argent qu'il s'agit.
Non. Hein,
c'est ça. Il n'y a pas un truc à la fin. On peut faire des dons, des chèques, quoique, si on veut, on peut. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas un appel à donation.
Non, du tout.
C'est un appel à témoignage.
À témoignage ou à documents, puisqu'en fait, on cherche aujourd'hui autant des cartes postales, des photos, des documents écrits, mais également des paroles à recueillir qui viendraient d'habitants qui ont connu la vallée, on va dire, il y a 100 ans, ou en tout cas qui en ont entendu parler par le biais de leur famille, par exemple. Voilà, donc là, aujourd'hui, on essaie de recueillir toute cette mémoire qui aussi est en train de s'effacer doucement puisque les anciens s'en vont. Et l'objet, on reparlera peut-être juste après de l'association, là je vous dis rapidement ce pourquoi on le fait. L'objet, c'est d'organiser très bientôt donc ce que j'ai nommé des balades curieuses, qui sont des petites randonnées thématiques qui invitent les habitants à redécouvrir les richesses de la vallée de la Baille, dont une qui va être axée autour de la mémoire. Et à ce titre, on va inviter une compagnie de théâtre de rue qui se trouve à Vaour, hein, le Dandy Manchot, et qui a besoin, en fait, pour son travail de théâtre, on va dire d'éléments comme ça de mémoire, puisqu'en fait c'est la base de son spectacle. Voilà.
Oui, alors le Dandy Manchot est réputé pour écrire des spectacles effectivement à partir de documentation. Hein. Il y a des choses qu'ils ont fait sur la guerre de 14. Et c'est vrai que c'est passionnant d'avoir quelque chose documenté. C'est-à-dire, ça fait événement et en même temps ça apprend des choses recueillies. Donc pour ça, il faut les collecter. Ce qui est pas difficile pour vous, je suppose, c'est de faire une balade florale. Ça c'est pas compliqué. Hein. Bon. Il suffit d'un spécialiste.
Botanique.
Voilà, des animaux, des sentiers. Bon, tout ça, on connaît la géographie. On peut aller voir, je ne sais pas, moi, des vieux moulins. Mais vous voulez réintroduire la vie. Hein, la vie qu'il y avait autour de ces moulins, qui les a construits, comment on vivait, je ne sais pas, moi, quels grains on venait y moudre, qui étaient les meuniers, est-ce que c'était tradition familiale, etc. Est-ce que la baille a servi à irriguer, par exemple, comme la Seille a beaucoup été travaillée par les cisterciens. Emmanuel, tout ça, c'est une entreprise culturelle.
Ouais, c'est très compliqué parce qu'on se rend compte. Là, on a commencé avec Virginie Dago, qui elle est spécialisée un peu dans l'enregistrement. On a commencé à collecter donc des témoignages des anciens du secteur. Et on se rend compte que la vallée de la Baille, elle a été désertifiée à fin 1800, début 1900.
Ah oui, déjà.
Donc en fait, on n'a aucun témoignage direct des moulins, à part sur ceux vers Alzone, celui de Droyer, où on nous parle que le grand-père, oui, lui, il a dit qu'il avait trouvé des pièces d'or quand il avait travaillé là-bas, ceci, cela, des histoires comme ça. Mais pas de témoignage de travailleurs ou de gens qui ont vécu là. Et là, le dernier moulin encore habité, c'était ce qu'on appelle le moulin de Philippe, le moulin de Salé-Racba. Et apparemment, Pélagie Philippe, c'est la dernière habitante de la vallée, proprement dite.
Alors à quoi c'est dû ça? Il y a pas assez de travail, il y avait pas assez de culture. En fait, tout ça soulève des questions comme ça. C'est ça qui est passionnant. Parce que même si vous n'avez pas des témoignages directs, le fait qu'il n'y ait pas de témoignages, ça signifie quelque chose. En l'occurrence, on sait que l'artisanat, les activités économiques ont pas permis de vivre là depuis deux siècles.
Ouais, c'est peut-être plus complexe que ça. C'est peut-être aussi la désertification des campagnes, je pense, qui a déjà joué un grand rôle dans le départ de pas mal de gens. Donc les endroits qui étaient plus difficiles d'accès ont été de suite moins utilisés, on va dire. Et après, une évolution aussi. On ne sait pas encore vraiment. C'est vraiment très...
Mais on va faire tout. Très étonnant. On va faire le tour de tout ce que vous avez listé qui vous paraît intéressant, sur lequel recueillir des témoignages. Mais vous savez ce que c'est que la radio? Il y a aussi de la musique.
Antoine a refusé ce soir de prendre un verre avec Marie. Elle avait envie de le voir. Elle en avait besoin aussi, oui, mais ce soir c'est pas possible. Il a un rendez-vous important avec une fille hyper sensible qui va pas bien en ce moment. Il l'a connue sur internet par un blog sur la solitude. Depuis le mardi, il se mail, ça efface ses inquiétudes. Facebook, c'est 26 de moins que Sophie. Et puis comble de l'injustice, Facebook, elle y va même plus. Elle dit que ça fait trop 2010. Du coup Paul est un peu perdu. Comme il trouve pas la solution, il s'affale devant la télé. Il est prêt à tout, mais au fond, lui ce qu'il voudrait, c'est l'embrasser. Seul dans le bateau, François est dégoûté, il craque, il est au bord de la dépression, car il s'est fait piquer son Mac avec tous ses contacts, c'est con. Depuis il est sous Gardénal, car il lui faudra bien 2 ans pour se refaire une vie sociale et pour retrouver tous ces gens. Antoine, Sophie, Paul et les autres, ses meilleurs amis où qu'ils soient, les siens et peut-être les nôtres, qui souvent ne se connaissent pas. On fait partie du même réseau. Oh, le monde est beau. Chaque jour, on est plus nombreux à être seul dans le bateau.
CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Et toujours en compagnie de Stéphanie et d'Emmanuel, on parle de leur association, Vallée Éco, qui se trouve à Ginal, c'est qui va organiser des balades curieuses dès le printemps. Mais pour ça, pour enrichir la documentation, il y a un appel à témoignages. Alors, on parlait des moulins avant d'écouter la musique. Les charbonnières, il y en avait, des mines de charbon. Est-ce qu'il y avait du phosphate, des fours à chaud, des choses comme ça?
Sur le plateau des fours à chaud, pas dans la vallée. Il y en a encore quelques-uns, des très très beaux, hein, sur le domaine de Ginal. Parce que là, c'est un peu ambigu, on parle de la vallée de la Baille. Mais c'est parce que nous, on travaille particulièrement sur ce secteur-là, mais la vallée de la Baille, elle est autant en Tarn-et-Garonne que dans l'Aveyron, et sur plusieurs communes. C'est très vaste, on va dire.
Oui, mais ça, on s'en fout. Si on fait une balade, on va pas s'arrêter à la limite d'une commune en disant « Ah, il y a des ronces, on va pas de l'autre côté ».
Mais c'est d'autant plus difficile d'avoir des vrais témoignages, et aux archives, il y en a une partie qui va être dans l'Aveyron, une partie dans le Tarn-et-Garonne.
Ah oui, ça... Pour la documentation, c'est vrai que la centralisation administrative pose un problème, ça. Et alors, qui c'est qui s'y colle, là, dans l'association? Vous avez des érudits, Stéphanie?
Érudits, à mon avis, le mot est fort. Il n'y a pas d'érudits, non. Il y a plutôt des curieux ou des personnes qui... Oui, qui ont une affection particulière par rapport à ce territoire. Je pense d'ailleurs à Virginie Dago, mais aussi, on va dire, d'autres personnes hein, qui font partie de l'association Vallée Éco, mais font également partie de l'Aspropat, qui est une autre association partenaire, et qui, en fait, pour eux, on va dire, il y a plus cette envie à un moment de mieux comprendre le territoire et son histoire, et sûrement ça afin peut-être de créer, constituer des éléments de traces, qui pourront être transmises après. Je pense que c'est avant la question de l'érudition, il y a plus une question de curiosité.
Oui, ouais. Enfin, un érudit, c'est jamais qu'un autodidacte curieux.
C'est sûr.
Hein? Moi, je fais ce métier-là parce que j'apprends des tas de choses de tous les gens que je rencontre. Hein? Je sais plus le soir que le matin, et c'est formidable pour ça. Alors, vous avez listé des mines de charbon.
Mmh. Alors, ça, c'est pareil. C'est, pour le moment, on n'a pas rencontré quelqu'un qui les a connues. On a Monsieur Lebray, notre plus proche voisin, à Rossignol, qui... Lui nous dit que son grand-père en avait, enfin le grand-père de sa femme, parce que lui n'est pas là, il est arrivé par mariage, mais les a vus. Mais autrement, lui, à part voir des gens, parce que ça a été racheté par la mine ouvrière d'Albi, et ça a été fermé. Et à part voir des contrôleurs venir vérifier une fois tous les 15 ans que c'était pas exploité, il n'a jamais rien vu de ça.
D'accord.
Alors il y a eu des charbonnières, par contre, vers 1940, et il y a eu plusieurs périodes. Avec des réfugiés espagnols, on a aussi le Roc des Putes qui est à côté, donc il y a eu aussi des Polonais.
Le Roc des Putes, c'est une carrière.
C'est une carrière, tout à fait. Alors on ne sait pas encore, je voudrais pas aujourd'hui encore tout ce qu'on a eu. Un jour, si vous voulez, on reviendra pour vous en parler parce qu'on a plein de pistes sur le nom de ce lieu, mais bon, voilà.
Alors, vous intéressez donc à l'histoire des moulins, des carrières, des charbonnières, des mines de charbon, les mondages des arbres pour le fourrage de feuilles. Alors, ça c'est vrai que c'est une des particularités qu'on a dans nos zones, quand il y a des sécheresses et qu'on peut plus laisser paître tranquillement le troupeau, on en arrivait à leur donner à manger des feuilles.
Tout à fait. Alors ça, par contre, on a des témoignages directs.
Oui, parce que c'est encore...
Ça a été fait il n'y a pas si longtemps.
Oui, voilà. Il y a encore des sécheresses.
Oui, puis c'était vraiment pratiqué, maintenant beaucoup moins. Hein. Avec les transports de foin et tout ça, c'est beaucoup plus facile d'acheter que d'aller s'embêter à rentrer des rameaux. Quoi. Mais c'est pour ça, c'est intéressant aussi pour nous, parce que ça a façonné la vallée. C'est pour ça qu'il y a des arbres qui sont coupés à une certaine hauteur et qui repartent avec des petites branches, alors qu'ils ont un gros fût. Si on ne sait pas que ça a été fait pour ça, on se demande pourquoi ils sont malades, les arbres.
C'est ça qui est passionnant dans vos balades. J'imagine déjà des explications à une curiosité qui ne se serait pas exprimée. C'est vous donner des explications sur le paysage qu'on voit.
Tout à fait. C'est un peu l'idée aussi. C'est se réapproprier tout ça. Moi, en débroussaillant toutes les parcelles que j'utilise pour mes animaux, je redécouvre le travail des anciens. Je redécouvre des murs en pierre, des terrasses, des arbres justement avec des drôles de formes. Tout ça, et c'est comprendre ça, quoi, et après le partager avec...
Et alors, et les sources? Est-ce qu'on arrive à identifier toutes les sources, ou est-ce que cette géographie-là bouge pas, suivant le climat?
Là, apparemment, en tout cas, on aimerait que quelqu'un réponde à la question, à notre place. Non, parce que des sources, bien sûr, il y en a. Ceci dit, je pense qu'elles se déplacent, elles se tarissent, et là, aujourd'hui, nous, on en a identifié quelques-unes, mais on sait qu'il y en a plus. Beaucoup plus que ça.
Alors, bien entendu, pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresse, à la fin, on dira où et à qui, avec qui prendre contact si il y a des témoignages à apporter. Hein. Alors, vous listez encore des fours à pain. Bon, ça, c'est comme partout ici. Il y a eu des fours à pain tous les 3 kilomètres.
Sûrement, pas mal de hameaux ou groupements de maisons, bien sûr, ils avaient leur four à pain. Ils étaient en quasi-autonomie.
Presque chaque ferme. Hein.
Oui, parce que là, on est dans une zone particulière où il n'y a pas un gros bourg avec des satellites. Mmh. On est dans des fermes isolées ou des hameaux, éventuellement. Et donc, du coup, on imagine que dans un hameau, il y avait forcément un four à pain pour cuire pour les environs.
Eh bien,
c'est pas évident.
C'est pas si évident que ça. Là, pour en avoir parlé justement un peu avec les personnes qu'on a interviewées, il y a quelques familles qui, elles, ont continué à faire ça. Donc, des fois, c'est chez elles que ça se faisait. Mais par contre, c'est pas forcément le plus gros four à pain. Nous, on a un très gros four à pain à Bégaine. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise qu'il tournait régulièrement. D'ailleurs, Gabriel Vigui m'en avait parlé, mais les autres voisins ne se rappellent pas de ça comme ça. Donc c'est vraiment chacun. Et on vous parlait, je reviens sur les sources. Gabriel Viguier, qui est décédé l'année dernière, nous a donné une source, nous a redonné une source. Il est venu un jour quand on faisait des clôtures et il nous a dit là les gars, il faut creuser 3 mètres hein, au moins et vous allez trouver un escalier en pierre et en bas il y a une source. Et un jour avec Olaf,
ça veut dire que l'escalier en pierre avait été comblé, remblayé.
C'est dans une combe. Alors naturellement l'eau elle descend avec des cailloux, des gravats et ça c'était complètement bouché.
D'accord.
Et on a pris la pelle, on s'est dit bon bah on va quand même essayer parce que nous l'eau quand même c'est un leitmotiv, c'est la survie. Et on a retrouvé la source, hein, 4 mètres plus bas.
Ça doit être un truc magique.
Ouais, hein, c'est complètement magique.
De retrouver des marches en pierre comme fait les anciens, couverts d'humus.
Ça, oui, mais là, c'était carrément pas, c'était recouvert de terre et de gravats, hein, 4 mètres.
Hein. 4 mètres
4 mètres. On peut, c'est difficilement imaginable. On y croyait qu'à moitié. On s'est dit, peut-être, il radote le vieux, quoi. Et puis, on s'est dit, quand même, s'il nous dit ça, et ça vaut le coup, au moins d'essayer. On n'a rien à perdre, à part un peu de sueur. Et on a retrouvé cette source.
Alors, du coup, c'est entretenu, c'est dégagé maintenant.
C'est beaucoup dire, mais on y travaille. Parce que le problème, c'est comment sortir de l'eau de 4 mètres de profondeur quand vous n'avez pas d'électricité à côté, que c'est une combe, il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est dur d'y mettre des panneaux solaires. Donc là, c'est encore un nouveau travail. Mais bon, déjà, on sait où elle est, on l'a curée, je la cure régulièrement. C'est reconstruire une voûte maintenant, un gros travail pour protéger, pour que ça arrête de se remplir. Là, c'est du futur,
Un futur chantier, ça, donc.
Voilà, mais on se rend compte vraiment que si les anciens s'éteignent sans nous donner leurs secrets, on aura énormément de mal à les trouver par nous-mêmes.
Ah oui, il y a des papés vicieux, alors.
C'est... non, mais c'est extrêmement important, ce travail de collecte, finalement, quand on vit quelque part.
Le plus important, moi, c'est ce que je ressens, c'est votre curiosité saine, c'est effectivement la transmission. Alors, quand vous faites la liste des choses qui vous intéressent, à savoir, c'est vous parlez des plantations et des variétés céréales qui étaient moulues dans les moulins, mais ça veut dire aussi qui étaient cultivées.
Tout à fait.
Et donc, on sait que les terres, les parcelles, c'était presque toujours de la polyculture pour l'élevage. Ça a bougé, il y avait de la rotation des cultures. On peut savoir ce qui a poussé là depuis 2 siècles.
Disons qu'avec les plans, le cadre napoléonien. Là, c'est intéressant parce qu'ils ont marqué qu'est-ce qui était cultivé à quel endroit.
Donc, avec donc, ça, oui. On peut savoir qu'il y a eu du seigle, du chanvre, de l'orge, peut-être du tabac, parce que.
Oui, voilà, pour tout ça, c'est possible. Après, c'est extrêmement difficile parce que ça a beaucoup bougé, suivant les années.
Donc, vous voulez collecter la mémoire de la vallée de la Baille en demandant à tous ceux qui savent qu'il y aurait des documents, des lettres, des descriptions, des petites monographies, voire même des souvenirs à raconter que leur aurait transmis de manière familiale. Comment on fait alors quand on est intéressé par ça et qu'on a on prend contact avec Virginie?
Ben, par exemple, Virginie Dago qui...
Alors elle est au 05 63 65 27 11.
Voilà, ou alors Emmanuel donc Buroni qui est au 06 22 90 08 28. Et on va dire que là, des rendez-vous ont lieu régulièrement pour ces collectes. Ça veut dire qu'il y a une répartition qui se fait des tâches. Donc parfois, on a une personne qui est intéressée pour aller interviewer tel couple d'anciens, parfois une autre. Voilà, donc on organise ça. Sachant qu'il y aura sûrement à un moment, ça s'arrêtera. Mais il est possible aussi que ça ne s'arrête pas, puisque là, aujourd'hui, ce travail doit, à un moment, donner lieu, sûrement, à peut-être un document spécifique, peut-être une édition, peut-être...
En tout cas, une restitution.
De toute façon, voilà, qui sera au-delà de la balade mémoire proposée par le Dandy Manchot.
Donc il y aura une restitution, puis un spectacle, on peut dire, ou enfin, je ne sais pas comment dire ça, c'est une balade avec...
Il y aura surtout une randonnée balade le 19 mai, organisée par le CDST, qui est co-organisée.
C'est le contrat de développement social des territoires.
Par le contrat de développement social des territoires. On va dire que lors de cette randonnée... L'idée, c'est aussi de réunir des habitants autour d'un repas, autour de produits locaux. Ça veut dire que ça va pas être une randonnée trop sportive. Ça va être une randonnée de curieux, de flâneurs, qui, à un moment, débouchera après un repas sur un spectacle au milieu de la forêt, au pied d'un arbre. Voilà.
Donc, si vous avez des choses à transmettre, des souvenirs, des documents, des photos, des cartes postales, des documents écrits, des films, des témoignages sur l'histoire de la vallée de la Baille, vous pouvez prendre contact avec l'association Vallée Éco, Virginie Dago 05 63 65 27 11 ou Emmanuel Buroni au 06 22 90 08 28. Merci Stéphanie, merci Emmanuel.
Avec plaisir.
Merci.
Le mag du quartier Rouergue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de CFM.